et de toute chose, eh bien, c'est aussi devant toi que ce soir nous voulons ouvrir ta parole et considérer ses exhortations, ses encouragements, ses avertissements et son édification. Et nous te bénissons par l'œuvre que tu veux faire, par son moyen encore, dans nos propres cœurs et nos propres vies à chacun, pour que nous puissions non seulement être sauvés, mais aussi des moyens de salut pour ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur, et béni sois-tu pour l'action de ton esprit encore, au milieu de nous et dans chacun de nos cœurs. Amen. Amen, béni soit le Seigneur. Voilà. Vous savez, l'homme suprêmement béni et approuvé de Dieu, c'est un homme de réveil, ou une femme de réveil. Parce que aujourd'hui, le monde est endormi dans son péché, hein. Les gens sont spirituellement endormis, voire même morts spirituellement. Hein. Et malheureusement, il arrive que dans les églises aussi, il y a des gens qui ont tendance à s'endormir spirituellement. Alors l'homme de réveil, c'est véritablement celui qui va être approuvé, soutenu par Dieu. Et quelles sont les conditions pour être un homme ou une femme de réveil? Alors nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Verset 1 à 17, et là nous avons l'exemple, un très bon exemple, un parmi les meilleurs, d'homme de réveil, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et nous pourrons noter 10 choses que nous pouvons relever dans l'exemple de Jean-Baptiste à ce sujet-là. Donc nous lisons d'abord, à partir du verset 1, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi !» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Amen. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de Jean-Baptiste? Une dizaine de choses avons-nous dit que nous pouvons relever dans sa vie, dans son témoignage, dans son exemple. Déjà, voici un homme qui renonce à lui-même. C'est une première chose qu'on peut voir. Vous voyez la simplicité de son vêtement, de son habillement, considérer son exemple, voilà. Et puis, bien sûr, vous avez aussi, donc, dans son attitude, vous avez toute cette pudeur. La pudeur dans le vêtement, ça c'est quelque chose de primordial, hein, donc, parce que les sacrificateurs, eh bien, qui devaient monter des degrés, monter les escaliers, ne devaient pas laisser voir leur chair. Vous avez cet exemple-là déjà. Hein. Ensuite, la simplicité de la nourriture aussi, des sauterelles, du miel sauvage, et nous voyons à quel point cet homme était consacré pour apporter le réveil autour de lui. Première chose, bien des choses seraient à dire, encore, mais voici encore un homme courageux. Non mais courageux, lorsque ces gens religieux, qui étaient des gens puissants dans la société, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui dans notre société, lorsque ces gens religieux viennent à lui, il n'hésite pas à les traiter de race de vipères. Hein, c'est quelque chose qui pouvait lui attirer des problèmes, qui d'ailleurs lui en a attiré. Et nous voyons même plus loin, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 14, versets 3 à 7, nous voyons qu'il a repris Hérode, le roi Hérode, parce qu'il avait pris la femme de son frère. Il lui a dit, il n'était pas permis de prendre la femme de son frère. Et puis au bout du compte, nous savons même que ça lui a coûté la vie, cela. Mais c'est un homme qui, ce n'était pas un inconscient, ce n'était pas un téméraire. Téméraire, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il risquait en dénonçant ainsi son péché. Et nous voyons donc le courage de cet homme. Et il faut être courageux, pour être un messager fidèle du Seigneur. Et la source du courage, c'est dans le Seigneur que nous l'avons. Là encore, hein, vous savez, c'est lui qui rend courageux, même ceux qui le sont le moins par nature. Et on peut dire comme l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. » Troisième chose, Jean-Baptiste est un homme qui a obéi à Jésus en tout. Jamais il n'a rien refusé au Seigneur. Hein. Matthieu 3, nous avons vu les versets 14 et 15, Jean-Baptiste s'oppose au baptême de Jésus par lui, donc, parce qu'il dit, mais non, mais c'est l'inverse qui devrait se passer. Et je dirais que quelque part, ça se comprend ce qu'il dit, hein, ça se comprend tout à fait, parce que lui, il sait qui est Jésus, beaucoup plus que les autres, beaucoup mieux que les autres. Mais finalement, lorsque Jésus lui dit, mais il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, il est marqué, Jean ne lui résista plus. Jean ne lui résista plus. Et c'est pour ça que nous voyons dans Marc chapitre 1, verset 5, que tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Quelqu'un qui a un esprit d'obéissance sera un encouragement pour les autres à obéir aussi. Hein, nous voyons clairement cela. Et nous voyons qu'à ce moment-là, Dieu va accompagner sa prédication. L'évangile prêché par Jean-Baptiste, c'est une puissance. Et c'est à cause de ça que des vies sont changées. Et la question se pose, est-ce que vous avez demandé pardon? Est-ce que vous avez confessé vos péchés à Dieu? Est-ce que vous avez pris le baptême à la suite de cela, comme ces gens l'ont fait? Hein, donc nous sommes devant ces réalités-là. Une quatrième chose qu'on voit chez Jean-Baptiste, c'est son humilité. Jean-Baptiste est un homme humble. Hein. Marc 1, verset 7, il est marqué là, il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier me baissant la courroie de ses souliers. » Un homme qui reconnaît qu'il n'est pas digne et qui le proclame fortement, qui le proclame publiquement pour que la gloire soit attribuée à un autre. Dans Jean chapitre 1, 19 à 23, que nous allons lire, voyons ce qui est marqué là. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Hein » On voit donc le propre témoignage de Jean-Baptiste à son propre sujet, c'est évidemment qu'il n'est pas le Christ, qu'il n'est pas Élie, mais qu'il n'est pas le prophète, qu'il est simplement une voix. Simplement une voix. Et nous voyons que cette humilité est bien réelle, parce que Jean 3, verset 30, hein, lorsque d'autres vont essayer de le mettre un peu en concurrence avec Jésus, lorsque certains de ses disciples vont se tourner vers Jésus, que va-t-il dire ? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dieu ne peut rien faire avec un homme orgueilleux. Il ne peut rien faire avec ça, hein. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui est imbu de lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit brisé et qu'on soit humilié afin que nous soyons petits à nos propres yeux et que Dieu puisse nous utiliser et que ce soit lui qui soit glorifié. Amen. Et si je poursuis encore une cinquième chose, je peux voir aussi que Jean-Baptiste est un homme qui est saint. Il est saint, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est mis à part du péché, séparé du péché, séparé non pas juste pour être séparé, mais séparé pour Dieu. Séparé pour faire la volonté de Dieu, et c'est ce que nous voyons de sa vie, telle qu'elle nous est expliquée dès le départ. C'est un homme qui ne peut pas se mêler avec le péché. Et c'est pour ça qu'il va dénoncer le crime d'Hérode à un moment. Hein? Dans Marc chapitre 6, verset 17 au verset 20, nous allons lire cela également, Marc 6, verset 17 à 20. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle Hérode a l'avantage d'entendre le message de la parole de Dieu, de la bouche de cet homme courageux, de cet homme mis à part pour le Seigneur. Et voilà, le problème d'Hérode, c'est qu'il a traîné. Le problème d'Hérode, c'est qu'il a toujours remis à plus tard. Il a remis à plus tard, pensant qu'il pourrait toujours contrôler la situation, pensant qu'il pourrait toujours décider de se tourner vers Dieu lorsque lui le voudrait. Et nous voyons, à un moment, il s'est trouvé pris. Il s'est trouvé pris, dans son cas, il a été pris par un serment qu'il a fait. C'était un très mauvais serment, hein, donc... Et ça a mené au fait que, du fait qu'il était aussi prisonnier de sa réputation, enfin de l'opinion que les autres pensaient de lui, à cause de cela, la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Et c'est le salut de son âme qui a été coupé en même temps. Le salut de l'âme d'Hérode qui a été coupé en même temps, vous savez. Et ça, c'est quelque chose qui attend ceux qui ne veulent pas prendre position pour le Seigneur. Ceux qui tardent toujours, ceux qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir se convertir lorsqu'ils voudront. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils vont être de plus en plus liés. Plus en plus liés par l'adversaire. Au fur et à mesure que le temps passe, le diable prend des droits sur leur vie, et d'un seul coup, les voilà qui vont être obligés de couper. Mais dans le mauvais sens, hein, bien sûr. Hein. Hélas, trop souvent, c'est dans le mauvais sens que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut venir au Seigneur sans tarder, sans être orgueilleux là encore. Sans s'imaginer que c'est nous qui contrôlons les choses, mais vraiment saisir l'occasion que dans sa grâce, Dieu nous fait, pour de nous tourner vers lui, pour être sauvés pour l'éternité, avant de se trouver pris au dépourvu par l'adversaire. Amen. Et puis une sixième chose qu'on voit, c'est que Jean-Baptiste, c'est un homme qui est rempli de zèle. Lorsque Jésus parlera de Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 5, au verset 35, il dira de lui, « Jean était la lampe, qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Voilà, c'est un homme qui brûle, un homme qui a la lumière de Dieu, c'est un homme qui a le feu du Saint-Esprit, un homme qui est rempli d'un zèle ardent. On voit cela. C'est, rappelez-vous dans le désert, hein, lorsque Moïse était au désert, lorsqu'il était encore pendant ses 40 ans de solitude, qu'est-ce qu'il a vu un jour? Il a vu un buisson ardent. Un buisson qui brûlait dans le désert et qui ne se consumait pas. Un buisson qui brûle encore, c'est une chose. Mais un buisson qui brûlait sans se consumer. Alors il a dit, je veux me détourner pour voir quel est ce prodige. Et c'est vrai. Et nous savons la façon dont Dieu lui a parlé de cette manière-là. La façon dont Dieu lui a parlé. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça, vous savez. Dieu parle au travers de gens qui brûlent pour lui. Dieu parle au travers de gens qui sont brûlants pour lui. Hein. Et ça, c'est précieux et ça, c'est important. Vous savez, les gens, ils ne viendront pas forcément pour vous écouter, mais ils viendront pour vous voir brûler. Et si vous êtes brûlant pour le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, vous allez être un moyen de réveil, un moyen de bénédiction. Amen. Et cette lumière, nous a-t-il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Hein. Et Jésus, s'il dit ça, c'est pour faire le contraste avec lui-même, parce que Jean-Baptiste, c'était une heure, mais Jésus, c'est toujours. Jésus, on peut se réjouir toujours à la lumière du Seigneur. Hein. C'est ça la grande différence. Hein. Et dans l'Évangile, nous avons des raisons de nous réjouir toujours. Lorsque l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et pourtant, à vue humaine, il n'avait pas beaucoup de raisons de se réjouir, hein, parce qu'il était en prison quand il a écrit ça. Hein. Et cependant, il le dit. Pourquoi ? Bien parce que lui-même, il repassait dans son cœur ses raisons précieuses de se réjouir, parce qu'il avait la paix avec Dieu, parce qu'il avait le pardon de son passé, le pardon de son péché, parce qu'il avait l'assurance de la vie éternelle, parce qu'il avait la certitude que son existence était conduite par Dieu, qu'il était dans le plan de Dieu, et que donc il était gardé, quoi qu'il en soit. parce qu'il avait fait l'expérience de tellement de délivrance et de tellement d'exaucement, parce qu'il connaissait ce que c'est qu'une vraie communion avec Dieu et une véritable communion fraternelle. Parce qu'il avait vu des miracles, il avait vu des guérisons, il avait vu des soulagements, des exaucements, et tant d'autres choses. Et si on a vécu cela, si on a connu cela, eh bien on peut se réjouir à la lumière de Christ, alléluia. Et c'est important de pouvoir se rappeler ces choses, de pouvoir les repasser dans nos cœurs, de pouvoir les repasser dans notre mémoire avec reconnaissance envers notre Dieu. Amen. Donc, et puis voyons-nous encore une septième chose. Jean-Baptiste, c'est un homme qui a le salut des âmes à cœur en priorité, en premier. Dans Jean 10, verset 41, nous lisons « Beaucoup de gens vinrent à lui. » Et il disait « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Pourquoi est-ce que Jean n'a fait aucun miracle? Eh bien, pour montrer, en tout cas une des raisons, on peut en citer plusieurs, mais pour montrer l'importance primordiale du message de la parole. Hein, déjà ça, hein. Vous avez trop de gens qui ne viennent que pour des miracles, ou avant tout pour des miracles, ou avant tout pour avoir une réponse à leur prière, ou avant tout, voilà, hein, ils vont se donner des raisons de toutes sortes, mais ils vont oublier le plus important qui est le salut de leur âme, et ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et nous voyons que du temps de Jean-Baptiste, vous avez quand même eu beaucoup de gens qui agissaient différemment. Parce que tous ces gens qui venaient, eh bien, ils venaient, ils se repentaient, ils écoutaient la parole de Dieu, ils venaient pour écouter la parole de Dieu au travers de Jean-Baptiste. Hein, ils n'avaient pas aucune garantie de miracle ou de guérison, puisque Jean-Baptiste n'en faisait pas. Je veux dire, en dehors, bien sûr, de l'appel à la conversion et, au salut. Et aujourd'hui, bon, Jean-Baptiste, c'est celui qui concluait l'ancienne alliance, hein, quelque part. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Et il y a des miracles comme signe. Hein. Jésus, quand il a commencé, il a fait beaucoup de miracles. Mais ces miracles-là étaient toujours en appui, ils étaient toujours en confirmation, ils étaient toujours en soutien du message de l'Évangile. Ils pointaient toujours vers la priorité de la parole de Dieu, vers la priorité du message de l'Évangile. La question du salut doit toujours passer en premier, parce que c'est ça le plus important. Et nous ne devons pas donner de repos à notre âme jusqu'à ce que nous ayons dans notre cœur cette pleine assurance d'être sauvés éternellement. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste, en huitième, c'est aussi un homme qui considère que le fruit est indispensable. Lorsque vous revenez à notre passage de départ, au verset 8, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Et au verset 10, il ajoute « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Et voilà une insistance qui est indispensable en ce temps-là comme aujourd'hui. Le vrai salut, c'est quelque chose qui s'accompagne d'un profond changement de cœur. Et ce changement de cœur ne peut pas avoir lieu sans ce que la parole de Dieu appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est le Seigneur qui fait cela dans nos vies par son esprit. Mais il fait cela en qui ? Il fait cela en ceux qui se tournent vers lui. Il fait cela en ceux qui veulent lui obéir, ceux qui veulent lui soumettre leur vie. Il fait cela en ceux qui se repentent de leurs péchés, ceux qui se repentent d'avoir mené leur vie à leur guise et qui veulent maintenant se soumettre à Dieu. Et ce ne sont pas là des paroles seulement, mais il faut aussi des actes qui accompagnent cela et qui résultent de cela. Et c'est pour ça qu'il a dit « Le royaume de Dieu consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité ». Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un est réellement converti, eh bien dans sa vie, il y aura de bonnes œuvres qui glorifient Dieu et qui feront du bien à beaucoup. De bonnes paroles aussi, qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Et c'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça, ce sont les fruits de la repentance. Et un vrai changement, non seulement en parole, non seulement en intention, mais aussi en acte et en conduite. Une vie qui est changée à la gloire de Dieu. Et sans cette transformation-là, vous avez lu le verset 10, là, juste avant, sans cette transformation-là, c'est le feu éternel. Hein? Jean-Baptiste est très clair là-dessus. Hein? Sans ce fruit de la repentance, c'est la perdition. Et c'est pour ça qu'il est important de se soumettre au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important de rechercher sa communion. Et celui qui le fera, et quand il s'abandonnera à lui, eh bien, à ce moment-là aussi, Dieu agira en lui. Et ce fruit pourra être produit à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jean-Baptiste aussi, remarquez bien, c'est un homme qui a formé des disciples. C'est marqué aussi ça. Plusieurs fois, vous avez cette notion, cette mention des disciples de Jean-Baptiste qui revient. Matthieu 5, verset 14. Alors les disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus. Un peu plus loin, Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Un peu plus loin, au chapitre 14, au verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et puis dans Jean 3, verset 25, il était dit aussi, « Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. » C'est un homme de réveil, ce n'est pas juste une étoile filante qui passe lumineuse dans le ciel et après il ne reste rien. Hein, ce n'est pas comme ça. Hein, donc. Mais c'est un homme qui va former des disciples. Il ne les forme pas pour lui-même. Il les forme pour l'annonce de l'Évangile. Il les forme pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes seulement. Hein. Rappelons-nous bien cela. Mais pour en encourager et en entraîner d'autres avec nous. Nous sommes sauvés pour ça. Et non seulement pour les sauver eux-mêmes. Hein, vous me direz, c'est Dieu qui le fait, bien sûr. Mais Dieu nous utilise. Dieu utilise des instruments humains, mais aussi pour en faire des disciples du Seigneur. C'est ce que Jésus a dit tout à la fin de l'Évangile, dans son dernier commandement. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant, donc voilà, etc. Donc, en faire des disciples du Seigneur qui, à leur tour, pourront témoigner, pourront annoncer l'Évangile. Et il est vrai que ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il peut y avoir aussi dans ce domaine-là des illusions, des tristesses parfois. Vous savez, Dieu a été déçu bien souvent par des gens pour lesquels il avait pourtant beaucoup fait. Hein. Donc ne nous étonnons pas si ça nous arrive aussi à l'égard de certaines personnes qui peut-être, de la part desquelles peut-être nous attendrions plus. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, quelle joie de voir ceux qui sont remplis de zèle pour proclamer à leur tour cet évangile. Amen. Puis une dixième chose, Jean-Baptiste est un homme qui croit à la colère à venir. Il croit à la colère à venir. Hein. Matthieu chapitre 3, verset 7, voyez-vous, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et puis au verset 10, il dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 12, il a masse rassemblée dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un homme de réveil, c'est quelqu'un qui croit à la colère à venir. Et c'est quelqu'un qui le prêche, c'est quelqu'un qui en parle. Jean-Baptiste y croyait, et les gens qui venaient l'écouter, et les gens qui se repentaient, ils y croyaient. Et la colère à venir, avec la perdition éternelle qui en est la conséquence, c'est une des choses les plus assurées, une des choses les plus prouvées qui soit, et tout particulièrement par Jésus. Tout particulièrement par Jésus dans ses discours et dans les évangiles. Et les nombreux maux et souffrances qu'il y a sur cette terre sont une preuve évidente qu'il y aura ensuite des souffrances éternelles pour certains. Les nombreuses et immenses injustices qui forment une immense masse de péchés, eh bien ça ne peut pas faire autrement que de crier à Dieu depuis la terre. Hein, donc ce péché est énorme, ce cri est terrible et il appelle à la colère et il appelle à la justice de Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu dit au sujet de Sodome, hein, parce qu'il s'adresse à Abraham. Il dit le cri contre Sodome est monté et son péché est énorme. Hein. C'est à cause de ça que le jugement est venu. Qu'est-ce qui se passe, vous croyez, avec la multiplication du péché aujourd'hui? C'est exactement ce chemin-là qu'on est en train d'emprunter. Dieu n'est pas qu'amour, Dieu est aussi justice. Et il nous faut considérer cela, ça fait également partie de l'Évangile. Et vous avez de nombreuses prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir et qui convergent également vers ce point, le point de cette colère divine. Qu'est-ce qui nous est dit au sujet de cette colère? Quelles sont les raisons de cette colère? De cette colère de Dieu? Vous en avez quatre au moins. La première, C'est à cause de l'endurcissement du cœur de ceux qui refusent de se repentir. Dans Romains chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Donc vous voyez, quand quelqu'un endurcit son cœur, quand quelqu'un refuse de se repentir, il se met lui-même sous cette colère et ce jugement de Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 8, vous avez une deuxième raison qui confirme la première, à cause de la rébellion à la parole de Dieu. Et là, il est dit « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Rebelles à la vérité de la parole de Dieu. Et puis, vous avez une troisième raison, à cause du manque d'amour de la vérité. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 10. Et là, l'apôtre annonce les choses de la fin, et il dit « L'apparition de cet impie, l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » L'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsque tu entends la vérité prêchée, est-ce que tu aimes cette vérité ou bien est-ce qu'elle te dérange? C'est la grande question. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, eh bien, ils seront trompés, ils seront séduits. C'est ce que ce passage nous dit. Et la colère est sur eux. Éphésiens chapitre 5, versets 6 et 7. Ceux qui écoutent de vains discours aussi. Donc il est dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que Dieu nous garde des vains discours. » Aujourd'hui, vous avez plein de vains discours dans tous les coins, spécialement dans les réseaux sociaux. Alors, n'allons pas perdre notre temps à écouter de vains discours. Soyons de ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui s'y attachent. Donc voilà, ça c'est la quatrième raison. Alors comment échapper? Comment échapper à cette colère? Un seul moyen, un seul nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Et dans Romains chapitre 5, verset 9, ainsi est-il écrit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Alléluia. Béni soit Dieu. Quand on est justifié par son sang, et puis après, bien après, on marche en communion avec Jésus. Et c'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9 et 10, notre dernier texte, il est marqué « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Alléluia. Quand on en vit avec Jésus, quand on vit ensemble avec Jésus, alors, les frères et sœurs, entre frères et sœurs, et qu'on vit avec Jésus, alors là, on est véritablement gardé de cette colère, et c'est véritablement la bonne position dans laquelle il faut entrer et dans laquelle il nous faut demeurer. Béni soit Dieu. Amen. Alors voilà, Jean-Baptiste, un homme de réveil, et un homme qui nous a annoncé ce message du plein salut, message du plein salut que nous sommes, qui est toujours actuel aujourd'hui. Et qui nous invite donc à véritablement faire nous-mêmes l'expérience et ensuite ne pas s'arrêter là, ne pas surtout s'arrêter à ce point-là, mais avoir à cœur d'être des hommes et des femmes de réveil à son exemple, suivant son exemple, que Dieu va pouvoir utiliser chacun spécialement, entièrement et utiliser pour de grandes choses et pour sa gloire. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que nous pouvons encore avoir sous nos yeux, ces exemples si parlants, si édifiants et si salutaires que tu as placés dans ton Saint-Livre pour notre bien, à chacune et à chacun. Et merci parce qu'encore ce soir, tu es celui qui veut attirer à toi ceux qui ne t'ont pas encore reçu. Tu veux les faire échapper à la colère. Tu veux les faire entrer dans la vie nouvelle. Tu veux leur faire réaliser ce qu'est une véritable repentance, ce qu'est une véritable conversion, ce qu'est une véritable nouvelle naissance, ce qu'est le véritable salut. Merci Seigneur, béni sois-tu pour ce grand et puissant désir qui est en toi, qui est plus, bien plus en toi que dans celle ou celui parmi nous qui en a le plus grand désir. Nous te remercions.